Vous écoutez France Culture.
Il est 1h moins le quart, vous êtes à l'écoute de France Culture et en compagnie de Martin Kenéen pour La Grande Table d'été.
Bonjour Mathieu, rebonjour.
Oui,
Mathieu Laurent et la rédaction de France Culture vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Ce lundi 11 août, la grande table d'été attaque la semaine en couleur, en naviguant d'abord parmi celles vives et changeantes du canal de l'Ourcq, qui joue actuellement et jusqu'au 24 août à égayer les rivages de la Seine-Saint-Denis. Puis, après la chronique d'Eau de la Vigne et avant celle de Marine Loyen, la deuxième partie de notre émission se parera des couleurs sombres et pénétrantes de l'œuvre de Claire Tabouret et Guillaume Bresson, deux jeunes peintres français dont l'art et la manière rencontrent les fantômes de notre époque. À l'origine de la première partie de cette émission, qui débute tout de go, une question. À quoi ressemble le mois d'août en banlieue? Et voici qu'en guise de réponse, la grande table d'été embarque pour une croisière à bord du Sisley, l'une des navettes qui sillonne cet été le canal de l'Ourcq, en compagnie d'un fier et grand équipage composé du rappeur et comédien Jeez, du graffeur Dacruz, de l'historien du canal Jean Joubert, de Mathilde Christnart, du comité départemental de Seine-Saint-Denis, sans oublier à la barre Alexia la batelière. Alexia, vous êtes la capitaine du Sisley.
Oui, c'est
vous pouvez me décrire la manœuvre que vous êtes en train de faire?
Alors là, je vais décoller l'arrière du bateau, reculer pour pouvoir prendre un axe pour aller éviter les quais puis aller tout droit. Voilà. Carrément prendre la voie navigable.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
En 1936, dans La Belle Équipe, Gabin y chantait « Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau ». Mathilde Christnart, cette 7e édition de l'été au canal, quel renouveau est-ce qu'elle donne à voir dans l'histoire et dans la vie de ce canal de l'Ourcq?
Elle donne à voir le canal. Le canal, il bouge tout le temps. Il est toujours différent. L'été du canal, c'est une grande manifestation qui anime le canal de l'Ourcq avec des partenariats avec toutes les villes qui le bordent. Donc le squelette, c'est les navettes. Et donc là, on propose de découvrir le canal sur l'eau. Et à bord des navettes, on a des commentaires qui racontent l'histoire. Après, on a beaucoup de, on met beaucoup de projets artistiques, d'art et de culture. Donc, on travaille autour de la danse et de la musique, notamment avec des balles. Donc, depuis le début, on s'est dit qu'on voulait faire revivre l'esprit guinguette, balle, danse, loisirs et danser au bord du canal. Là, il y aura un bal le 17 août au parc de la Poudrerie de Sevran et le 24 août, il y aura un bal à Pantin au pied de l'ancien bâtiment des douanes.
Tu me dis pour l'arrière? Pour voir, pour éviter.
Dacruz, le canal a été inauguré il y a environ 200 ans. Alors, vous n'avez pas 200 ans, mais est-ce que vous l'avez vu changer depuis vos jeunes années dans ce quartier?
Clairement, j'ai pu constater effectivement l'évolution en fait de cette autoroute, on va dire. C'est une sorte de jonction entre Paris et ce qu'on appelait anciennement sa banlieue, puisque maintenant, finalement, on va parler d'un seul et même grand Paris. Et le canal faisait déjà un petit peu la jonction entre toutes ces villes. Et typiquement parce qu'aussi le canal était aussi situé sur ce nord-est parisien qui était assez industrialisé à l'époque. Et justement, c'est aussi un terrain de jeu idéal pour nous, vu que tout ça, c'est en train de disparaître, la ville change. Et du coup, c'était un terrain de jeu franchement propice pour aller justement découvrir ces espaces et y apposer de la couleur. Pour ce qui est de notre pratique, graffiti ou street art, etc. Mais sinon, effectivement, ne serait-ce qu'aussi au niveau du tourisme, le fait de voir maintenant, pendant qu'on parle, là, on voit des gens qui font leur jogging, qui courent le long du canal paisiblement. Quand j'étais petit, justement, à Ourcq, je voyais pas de gens courir le long du canal, à peine se balader, oser se balader, parce que sinon, c'était un petit peu un endroit qui était un petit peu désertifié, une sorte de no man's land. Donc je suis ravi de voir maintenant qu'aujourd'hui, on exploite pleinement en fait, les beautés de ce canal.
Mathilde Krisnart, Dacruz le dit, autrefois le canal c'était une artère d'un espace industrialisé. Aujourd'hui c'est de plus en plus le tertiaire qui fait battre le cœur économique de cet espace, du Paris du Nord-Est mais aussi de la Seine-Saint-Denis, vers laquelle on se dirige actuellement. Il y a du tourisme, on le sait, du tourisme d'affaires en Seine-Saint-Denis avec le Salon du Bourget où on achète des avions et puis des armes. Il y a aussi le parc des expositions de Villepinte qui accueille de nombreux salons. Quelle place la culture joue-t-elle aujourd'hui dans le tourisme en Seine-Saint-Denis ?
Alors on est un territoire, le nord-est parisien, qui est un territoire où la création artistique est très importante. Hein. On a beaucoup d'artistes sur le nord-est parisien avec des structures, beaucoup d'actions artistiques dans l'espace urbain. Donc oui, la culture et l'artistique jouent un rôle très important sur le territoire. Alors le tourisme, c'est tout ça, hein. C'est du loisir, c'est du patrimoine, c'est de l'art, c'est de la culture, c'est du développement local. Donc nous, on s'appuie fortement sur un réseau d'acteurs et puis un réseau d'acteurs culturels, artistiques. Donc là, par exemple, dans le cadre de l'été du canal, on développe des projets artistiques, notamment autour de l'art urbain, autour du détournement urbain. Là, on a proposé à 30 artistes de jouer avec la ville, de l'embellir. Le canal de l'Ourcq, c'est leur terrain de jeu. Et on a proposé à Artazoï d'assurer la direction artistique. On vient de voir tout à l'heure sur une façade une œuvre de Jace. On vient de voir le cyclope qui avait mis son œil sur des potelets ou sur des grandes boules. On va découvrir un petit peu plus loin une œuvre de Romain Froquet. Donc voilà, l'idée, c'était toujours autour de ce canal qui est qui fait du lien entre Paris et la Seine-Saint-Denis, de développer des projets artistiques importants autour de l'art urbain et du street art notamment.
Jean Joubert, aujourd'hui, encore plus qu'hier, le canal de l'Ourcq est le terrain de jeu des artistes urbains, comme on dit. Mais quelle est la place de la culture dans l'histoire de ce canal ?
Alors la place de la culture est extrêmement réduite. Il faut savoir qu'à l'origine, le canal était destiné à approvisionner les Parisiens en eau potable, accessoirement pour la navigation. Dans sa fonction de vecteur d'eau, il contribue à alimenter le canal Saint-Denis et le canal Saint-Martin. Mais la culture, au sens où on l'entend aujourd'hui, était complètement absente. Il s'agissait uniquement d'activités commerciales de batellerie et d'activités sanitaires, d'apporter de l'eau potable aux Parisiens. Pendant très longtemps, le canal est resté un espace clos, bordé d'usines dans la partie de la Seine-Saint-Denis, où les accès aux berges étaient extrêmement réduits, étaient simplement le fait de promeneurs qui connaissaient les lieux et de pêcheurs. Il y avait des grosses sociétés de pêche, notamment à Bobigny, la société de pêche Lagouine de Bobigny, qui a compté jusqu'à 1200 adhérents. Et donc, ces gens-là venaient au canal, mais ailleurs, venir au canal, c'était un endroit extrêmement mal famé. Étant enfant, je ne disais jamais à ma mère que j'allais jouer au bord du canal. Ça aurait été très, très mal vu, parce que c'était une zone de non-droit, le canal.
Dacruz, vous êtes un initié du canal. Alors, c'est pas pour faire de la pêche que vous y venez depuis de nombreuses années. C'est pour faire du graphe. On a d'ailleurs des œuvres d'artistes invités comme vous dans le cadre de cet été du canal sous les yeux. Est-ce qu'il y a une une patte, un style du nord-est parisien et peut-être même de ce canal, un style Seine-Saint-Denis, un Seine-Saint-Denis style.
Au-delà d'un style qui définirait la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est un état d'esprit. Le long du canal, c'est une liberté d'essayer, de tenter des choses comme ça. Même assez jeune, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'était un espace de liberté qui perdure encore aujourd'hui. Tant que ces bâtiments, finalement, ne sont pas encore reconstruits, il y a de nombreux murs qui permettent de s'exprimer. Donc voilà, le point commun, c'est des murs d'expression. Au-delà de nous, de notre intervention, on est une trentaine d'artistes à intervenir, mais il y a des centaines d'artistes, de graffeurs, de street artistes, des artistes du quotidien qui finalement profitent de cet espace pour venir s'exprimer. On parle des graffeurs ou de ceux qui vont marquer les murs, mais on voit des gens qui passent, qui chantent. Il y en a qui se mettent le long du canal pour jouer d'un instrument qu'ils ne pourraient pas faire finalement chez eux. Donc voilà, je pense que ce canal, voilà, la caractéristique, c'est surtout un espace de liberté et d'expression.
Alexia, capitaine du Sisley, on vient de s'arrêter, où sommes-nous ?
Église de Pantin.
Mais alors Dacruz, on descend à quai, là, on a sous les yeux un bâtiment qui est en rénovation et on distingue quelques graffitis.
Alors, en plus, ça tombe assez bien parce qu'en fait, j'y ai participé avec Marco et Popov à l'époque. Enfin, je parle de la façade qu'on voit encore, qu'on perçoit. Ça, c'est justement une œuvre qu'on a réalisée il y a 2 ans avec l'été du canal, justement, avec le CDT 93.
Et c'est quoi ce bâtiment ?
Ce bâtiment, c'est le bâtiment des douanes. Enfin, l'anciennement bâtiment des douanes, qui aujourd'hui est le futur siège du groupe Euro-RSCG BETC, donc groupe de communication français. C'était un peu notre five points à la française dans le nord-est. Donc c'était vraiment un bâtiment qui était une aventure à lui seul, quoi. 22 000 mètres carrés sur 5 étages ou 6, ça permet de faire de sacrées balades. Et moi, ça me donnait toujours l'impression de voir une sorte de baleine échouée au bord de l'eau, en fait. C'est une sorte de Moby Dick. Il y avait un côté comme ça, monumental, intéressant.
Patrick Le Guillou, on vient de descendre à quai, descendre du Sisley, non pas parce que l'aventure s'arrête, que la croisière ne s'amuse plus, ou que le canal serait arrivé à son terme, parce qu'il y a 111 km de canal de l'Ourcq. On s'est arrêté ici à Pantin, parce que précisément les choses bougent.
Oui, les choses bougent depuis maintenant une vingtaine d'années. Et la transformation du canal est véritablement une orientation qui se met en œuvre depuis 1990 à peu près. Le bâtiment qui était le premier à être transformé, c'était le centre administratif, qui est devenu un établissement culturel, en étant transformé en centre national de la danse.
Donc on a la fameuse cité de la danse de Pantin, ce bâtiment des douanes. Qu'est-ce qui est en mutation encore autour de nous ?
Eh bien écoutez, vous aviez ici une ancienne papeterie, les sièges d'une ancienne papeterie, Papeterie de France, qui a reçu les laboratoires de recherche de Chanel, qui sont installés il y a environ 2 ans. Vous avez derrière ce bâtiment industriel la recréation d'un quartier qui est en cours, qui a démarré, avec cette fois-ci des fonctions tertiaires, mais aussi de promenades tout le long du canal, parce que l'objectif, c'est de rendre aux usagers, aux piétons, aux cyclistes, l'usage de ce canal, et la création de commerces, évidemment, pour aussi animer le quartier.
On est dans un vieil espace industriel qui a longtemps été très pollué. Aujourd'hui, on joue plutôt la carte des éco-quartiers de l'écologie. Ça entre en ligne de compte dans les aménagements ?
Oui, bien évidemment. Et la dépollution est une des contraintes majeures des aménageurs. Parce que ce canal a été pollué par les activités qui ont été implantées au 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc c'est une des contraintes qui joue beaucoup dans les équilibres économiques de la transformation. Mais c'est une nécessité aujourd'hui légale.
On y va. Allez, on est reparti pour un tour. On va aller direction Bobigny. Un petit créneau pour repartir. Et on repart d'avant.
Mais Pantin se drape de bleu pour t'accueillir. C'est la neige qui s'étale à tes pieds de blanche. Il te propose son costume de fraîcheur, comme pour te dire habille-toi de moi. Que tout fonde sur ta peau, pourquoi crois-tu que je tombe? Si ce n'est pour habiller tes pas, il faut que tu avances pour qu'ils disparaissent derrière toi. La neige tombe sur Pantin, sur chaque maison de la même façon. Peut-être un jour reviendront les lutins, sans armes et sans blessures, ayant sauvegardé leur butin tout au long de l'hiver si dur, pour trapper la ville de nuptialité. Quand sauvage elle se frie de sa dualité, un chaud et froid de printemps, une giboulée de sentiments.
Nous revenons à nos poissons, puisqu'on est reparti sur le canal et qu'on dépasse cet immense bâtiment des douanes couvert de graffitis. Vous, en tant que rappeur, slammer, comédien, le fleuve, le canal, l'eau, c'est un élément qui vous inspire depuis votre adolescence dans le département voisin du 92 à Gennevilliers, où la Seine passait à proximité jusqu'à vos nombreuses péripéties dans le 93 où vous avez habité dans différentes communes.
Oui, oui, effectivement. Et puis, à ma naissance, je suis né à Rennes, donc la Vilaine. J'ai grandi à Paris, donc la Seine, et puis à Gennevilliers, Haute-Seine. Comme dit Léon Gontran Damas, trois fleuves coulent dans mes veines. Bah, je m'en reviens d'Avignon. On a joué Léon, nègre des Amériques. Une rencontre entre Léon Gontran Damas, notre poète de la négritude nationale, guyanais, et Léon Walter Tillage d'Amérique du Nord, d'où ce titre. Et on a joué sans relâche à la Chapelle du Verbe Incarné. C'était un super projet.
Alors l'eau est essentielle dans votre histoire, dans votre patrimoine génétique, mais aussi dans votre art, on dit bien le flow, oui. Pour évoquer le débit des rappeurs. Il vous est arrivé de venir ici, le long du canal, rapper, slammer?
Oui, oui, beaucoup, souvent, hein. Que ce soit sur Pantin, Saint-Denis, Aubervilliers. Oui, oui, souvent, ça m'est arrivé. Et puis, de l'autre côté aussi, vers les bateaux phares, Dame de Canton, etc. Plus dans le sud. Oui, souvent. Et puis, des petites goguettes, des fois, ça m'est arrivé en région. Des bateaux pirates.
Et hier soir encore.
Et hier soir encore, une nouvelle péniche qui s'appelle la Grande Fantaisie, quai de l'Oise. Super lieu associatif. Je vous invite à aller découvrir. Et je pense qu'on a tous ce besoin de se retrouver sur l'eau, peut-être pas dans l'eau, pas tout de suite retrouver le liquide amniotique, mais sans avoir le pied marin, on a envie de... c'est agréable vraiment d'être sur l'eau, c'est très agréable.
Dacruz, on est toujours donc le long des berges du canal, où les graffitis s'égrènent sous notre regard. Le geste du graffeur avec sa bombe aérosol, ça a quelque chose à voir avec la fluidité de l'élément aquatique?
Avec l'élément aquatique, avec tous les éléments, je dirais même, en fait. C'est-à-dire que ça implique le mouvement, le graffiti, le graph, le tag. Et d'ailleurs, en fait, au moment où on parle de ça, on passe devant le camion, la bétonnière que Marco a réalisée, Marco 93. Donc très bon exemple pour illustrer ce dont on parle, c'est-à-dire le mouvement dans l'espace, l'occupation de l'espace. Et finalement, le moment où on appuie sur, pas sur la gâchette, hein, pour refaire une petite référence à NTM, mais le moment où on appuie sur le cap et la bombe, c'est le moment où en fait on libère, c'est comme si on marquait dans l'espace, l'espace-temps finalement. Donc effectivement, ça inclut d'avoir la notion de mouvement. Quel qu'il soit, parce que moi aussi, justement, il y a 2 ans, j'ai peint une péniche et justement, ça inclut à chaque fois les remous des bateaux qui passaient. Donc voilà, on est habitué à tout un tas de mouvements différents. Et donc, c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles on travaille beaucoup avec la respiration aussi, finalement. Comme du tai chi, mais avec des bombes de peinture, en fait.
Jean Joubert, historiquement, ce canal de l'Ourcq dédié à l'industrie, quelle place il laissait aux enfants ?
Aucun. Le canal était uniquement fonctionnel. Il est devenu très récemment, depuis les années 80, un espace de loisirs. Et là, les espaces de loisirs, on le voit au cours des opérations comme Bobigny-sur-Ourcq, par exemple, où les enfants sont rois. Mais historiquement, le canal était un lieu exclusivement professionnel, exclusivement fonctionnel. Et les petits-enfants d'Aubervilliers ou de Bobigny n'y avaient pas leur place.
Et quelle est la place d'un enfant sur une flûte, sur une péniche, dans cet univers des bateliers ?
Alors, les bateliers, d'après ce qu'ils nous ont raconté, mettaient leurs enfants dans des écoles à quai, dans des endroits où ils les laissaient pratiquement en pension. Bon, l'endroit le plus célèbre, c'est bien entendu Conflans-Sainte-Honorine. Hein, et les enfants accompagnaient les parents seulement en vacances. Moi, j'ai eu l'occasion, dans mes travaux d'histoire, d'interroger une ancienne batelière qui habite à Bobigny, là, qui me racontait que son grand plaisir, c'était les vacances scolaires qu'elle passait sur le bateau de son père.
Dacruz, il y a peut-être aussi un côté obscur de ce canal. Est-ce qu'il y a une dimension pour vous romantique, mélancolique, de blues, de spleen qui est associée à cet espace ?
Il y a un côté très, très poétique. Je pense que ça, c'est dû au fil de l'eau. Ça évoque tout de suite tout un tas de sentiments. Oui, il y a forcément la mémoire, les souvenirs, c'est un patchwork de plein de sentiments, forcément. Qui plus est, si on y a passé du temps, qui plus est, quand ça se passe au moment de l'adolescence ou des choses comme ça, il y a le fait de plus jeune, effectivement, venir faire mes premiers graphes le long de ce canal avec mon vélo. Clairement, quand je passe là, je me revois il y a une vingtaine d'années. Avec mon bicross, avec mes trois bombes dans mon sac, arpenter. Et oui, effectivement, il y a forcément tout un tas de souvenirs mélangés. Maintenant, je pense que c'est le propre aussi des créatifs et des artistes, c'est finalement d'avoir une certaine tendance à la nostalgie. Je suis d'origine portugaise, il y a aussi un mot en fait qui, je pense, regroupe assez bien toute la poésie que vous évoquez et en même temps le spleen parisien. En portugais, c'est un mot qui est assez difficilement traductible, qui s'appelle saudade, et qui fait aussi, pareil, un pont, parce qu'on passe sous le pont au parc de la Bergère. C'est le pont, justement, entre le fameux mot en portugais saudade dont je parle et le spleen, un peu en mode Rimbaud, Baudelaire, etc. On est typiquement dans cette passerelle, quoi, la passerelle des sentiments, et l'eau pour ça est assez incroyable, parce que on est dans un autre espace-temps. On n'est pas dans une voiture, c'est pas un bolide qui va foncer à 200 km/h, donc finalement t'as pas d'autre choix que de finalement d'observer. Et il y a beaucoup de phrases dans le graffiti. Finalement, là, si on se posait, qu'on lisait tout ce qui est écrit, là, il y a de la lecture, il y a plein de choses, justement. Chaque artiste, il y appose un petit peu sa question, ses questions, son ressenti. C'est aussi des messages qui sont adressés aux autres graffeurs, mais aussi au public qui va le lire. Une fois de plus, ce canal de l'Ourcq, il prend racine bien au-delà de Paris. Mais ce qui est intéressant, moi, sur les questions qu'on se posait là tout de suite, c'est que, une fois de plus, je viens du 19e arrondissement, donc j'ai pu observer déjà les grosses modifications sur ce territoire. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que là, on passe là sur ce canal là, au niveau du parc de la Bergère, mais que dans 2, 3, 4, 5 ans, ça sera en fait à peu près les mêmes décors qu'on peut connaître là, dans Paris. Donc c'est là où il faut faire appel à notre imaginaire, c'est-à-dire se dire que dans très peu de temps, finalement, tout ça va être occupé. Pour l'instant, ça prend en tout cas une très belle direction. Maintenant, il y a forcément, une fois de plus, des choses qu'on ne peut pas projeter aujourd'hui et qu'il faudra, je pense, qu'il faudra être vigilant pour qu'une fois de plus, certaines visions de la ville, du Grand Paris, n'empiètent pas sur la mémoire collective.
Jean Joubert, il y a la saudade, le spleen du canal de l'Ourcq. Il y a quelque chose de charmant, mais il y a aussi parfois le désespoir. Il y a une fameuse inconnue de la Seine dont les historiens ont, pu retracer le parcours, qui en fait est une jeune noyée repêchée en 1880 dans la Seine, mais qui se serait jetée dans l'eau, ici, dans le canal de l'Ourcq, et qui a inspiré de nombreux poètes. Quelle est son histoire ?
Alors, moi, je ne connais pas tellement cet inconnu de la Seine. Par contre, lorsque j'ai lu les chroniques du journal de Saint-Denis, notamment, qui était le journal local dans cette région-là, on raconte très régulièrement des histoires de noyades dans le canal. Alors, noyades, accident professionnel, des mariniers qui ne savaient pas nager, qui tombaient dans le canal, des meurtres, des assassinats, c'est très très fréquent. Des gens qui cherchaient à se baigner pour se rafraîchir et qui se noyaient, personne ne savait nager à l'époque. Mais c'est vrai que le canal était souvent un lieu de drame avec beaucoup de noyades et qu'on repêche des corps dans le canal jusqu'à Paris, ça ne peut pas étonner un historien.
Et on revient. Ah, c'est ça, on est en train de revenir là. Je reconnais le bâtiment de tout à l'heure. Là. Ouais, c'est ça, la péniche est là-bas.
On revient vers le quai de Seine. Ouais. Pour l'instant, on a des bétonneuses bien alignées sous les yeux. Vous avez déjà expérimenté le canal à la nuit tombée, Gise ? On a affaire, j'imagine, à d'autres gens que les promeneurs ou les joggeurs en short ?
Ouais, bah alors en été, tout au long, sur le long du canal, il y a un petit débuff, il y a des musiciens, des pique-niques, ça c'est convivial. Il y a eu d'autres périodes en hiver où il y avait des tentes, hein, des sans-abri, sans logement, sans papier.
Pour vous, c'est aussi un espace interlope où il y a du danger ?
Sûrement, ouais, sûrement. Il y a une chaîne alimentaire là aussi. Hein. Sûrement, on peut se faire manger vite fait. Il faut faire attention. Si tu te balades à poil à 3h du matin avec un petit short rouge et un Lumix et un guide du retard qui dépasse, peut-être que tu sois ici ou à Rio de Janeiro, c'est la même. Il hein. Faut être vigilant, il faut faire attention. Ça peut glisser des fois le long des quais. Mais c'est une belle culture, c'est la culture fluviale, les canaux. Et puis là, ici aussi, c'est le nord. Il s'est passé beaucoup de choses, tout est arrivé par là avant. Saint-Denis est une ville magnifique, historiquement, qui a plein de strates d'histoire. C'est une des seules, je crois, même d'ailleurs en France, qui est encore à vue d'œil. En se baladant dans la ville, on peut voir plusieurs époques. C'est beau.
Mathilde Krisnart, nous sommes de retour à Paris, mais l'été du canal, ce n'est pas que Paris, Bobigny ou Pantin que nous avons traversé ce matin. C'est un travail étroit de maillage culturel en relation avec toutes les communes qui bordent ce canal.
Oui, le canal, déjà, c'est un parcours entre Paris et dans le cas de l'été du canal jusqu'à Aulnay. Donc effectivement, l'idée, c'était de faire vivre et de consolider toutes les animations des villes qui bordent le canal. Donc il y a Bobigny-sur-Ourcq qui existe depuis longtemps, là, qui dure 4 semaines. Il y a Aulnay-Plage, il y a Pantin à l'heure d'été, Noisy-Bondy-Plage. Et donc l'idée, c'est vraiment d'inviter les habitants de la Seine-Saint-Denis, les Parisiens, les touristes, à découvrir. On prend le bateau, on s'arrête et on va à un bal à Bobigny, on va faire du pédalo à Noisy-Bondy-Plage, on va écouter un concert à Aulnay et à Pantin. Vous avez vu, on a 2 péniches, Anaco et Antipode, dans lesquelles il y a des concerts, des ateliers, on programme des bals, on peut se restaurer. Donc l'idée vraiment, c'est de faire du lien. Un lien qui est physique hein, entre Paris et là on parle d'Aulnay jusqu'à Aulnay, un lien social et du coup tout un parcours culturel festif pendant l'été. Et du coup voilà, ça fédère, c'est un lien et notamment autour de l'art urbain. C'est pour ça que cet été on a vraiment voulu que de l'art à l'Ourcq, les 30 artistes travaillent jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Et donc on peut suivre ce parcours de la Rotonde avec les totems de Dacruz jusqu'à Aulnay-sous-Bois en passant par, on a vu la cheminée, le module de Gire à côté des grands moulins de Pantin. Sur Noisy, on a vu la toupie à béton de Marco. Donc vraiment, voilà, inviter à un parcours. On a un canal qui est un canal métropolitain. Hein, et là, toutes les villes travaillent ensemble. Paris, Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy et Aulnay.
À 13h, passé de 14 minutes sur France Culture, il est temps de faire une petite escale à terre. Arrêtons-nous, non pas pour un bal ou un concert, mais pour la chronique d'Eau de la Vigne, à première vue qui s'entretient aujourd'hui avec l'artiste plasticien Laurent Grasso.
Laurent Grasso est un artiste français né à Mulhouse, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2008. Son travail est exposé dans le monde entier. Au téléphone, Laurent Grasso répond à notre question : quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? À première vue, Laurent Grasso, vous nous répondez.
Je ne crois pas, moi, qu'il y ait une œuvre qui m'ait donné envie de devenir artiste, en fait. Simplement, je me suis souvenu de voyage en Italie. Mes deux parents viennent d'une ville qui est devenue célèbre parce qu'il y a eu un énorme tremblement de terre. Et j'ai passé mon enfance entre deux régions qui étaient assez fortes, l'Alsace et l'Italie à côté de Naples. Et aujourd'hui, j'ai un intérêt pour les catastrophes, j'ai un intérêt pour les tremblements de terre. Je viens de faire un film à Pompéi, à Stromboli, autour des volcans, autour des ruines, de l'archéologie. Je me suis demandé d'où venait tout ça et comment ça avait commencé. Et en fait, je me suis souvenu de la première fois où j'ai découvert Pompéi, enfant, et cette idée de marcher dans l'histoire, c'est quelque chose qui est resté dans ma pratique et dans mes expériences. Le voyage dans le temps est un aspect aussi très important dans mon travail, et le voyage dans un endroit un petit peu irréel, dans un endroit qui est un petit peu à la frontière entre le présent, le passé, l'histoire, mais aussi la fiction. Plus tard, j'ai fait un film à Cinecittà, dans des décors de films abandonnés. Finalement, ces expériences de villes détruites, d'archéologie, ont été, à mon avis, beaucoup plus importantes que certaines œuvres, même si, d'un autre côté, mon enfance en Alsace était marquée par l'histoire, la présence moyenâgeuse de certaines maisons qui avaient été conservées, de certaines œuvres. Je me rappelle notamment d'une tête sculptée en bois au musée du Moyen-Âge que j'avais copiée étant étudiant. J'ai aussi grandi aux côtés de Holbein, qui était aussi un peintre qui me fascinait. Et donc, cette région, à mon avis, était aussi très importante, d'autant plus qu'elle était située dans une zone sismique. Moi, je me rappelle avoir assisté, étant enfant, à un tremblement de terre. Et c'était aussi, pour moi, une expérience très étrange. Donc voilà, ces expériences d'enfance, pour moi, je pense, ont une importance. Je suis en train de préparer aujourd'hui un projet sur les catastrophes historiques. J'ai retrouvé, par exemple, des images du tremblement de terre de Bâle en 1356, que je retravaille sous forme de peinture. Et je viens de faire un film aussi où on a fait voler un drone dans les rues de Pompéi et au-dessus du volcan de Stromboli. Et je me dis que voilà, tout ça a commencé il y a très longtemps.
C'était à première vue la chronique d'Eau de la Vigne. Et notez, chères auditrices et auditeurs, que les œuvres de Laurent Grasso seront à découvrir dans le cadre de son exposition Soleil double du 6 septembre au 31 octobre prochain à la Galerie Perrotin à Paris. Mais pour l'heure, nous sommes encore en Seine-Saint-Denis à bord du Sisley qui navigue au fil du canal de l'Ourcq. Vous avez le souvenir, Gis, de la première chanson, du premier rap qui a résonné dans vos oreilles, dans votre cœur et qui a fait basculer votre existence?
Ouais, je pense. Alors, il y a un rap américain de Public Enemy, Rebel Without Pause. En français, il y a plusieurs titres, mais il y a un titre qui résonne qui est d'NTM, Le Monde de Demain. C'est une chanson, je pense, en 91, peut-être, 90, 91. Souvent, ce rap résonne, notamment une phrase d'anthologie. Alors aujourd'hui, on dit punchline. Alors, une rime de Cool Chien qui dit « quelle chance d'habiter la France. Dommage que 32 gens fassent preuve d'incompétence. » Ça, c'est une phrase qui est... Voilà, c'est une rime qui est, toujours resté, quoi. Voilà, qui est en avance et qui est encore d'actualité. Voilà, ça c'est ma culture. Justement, là, j'ai une idée avec un bateau, une péniche. On va lancer des balles peura, donc des balles de rap, parce que c'est notre culture, c'est notre génération. On est des quarantenaires aujourd'hui, quand on avait 20 ans, on écoutait du rap. C'est normal, ça ne me surprend pas. Je vois des pères de famille maintenant qui ont gardé des résidus des années 80, des années 90, qui s'habillent encore hip-hop, et je trouve ça trop génial. C'est culturel, ça fait partie de la culture. Comme nous, on est musulmans, par exemple, je fais pas le ramadan, je pratique pas, je mange du porc, je bois pas d'alcool. Donc j'ai une certaine curiosité pour les ethnologues, anthropologues, sociologues, voire podologues. Mais je me considère comme musulman culturel quelque part, par d'où je viens, par ma famille. Et comme je suis, ça fait partie de ma culture, comme le Club Dorothée, comme Top 50, comme Chantal Goya. Il m'arrive même de chanter du sardou, des fois. Tu vois, et quand on me demande ça sort d'où, je dis bah, c'est ma culture, je crache pas dessus. Quand j'étais gamin, voilà, au supermarché, dans le taxi, à l'école, dans le car. T'avais des chansons, t'avais la variété française, on a grandi avec. Et ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture.
Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Dacruz, vous, la première œuvre que vous avez eue sous les yeux, alors je ne sais pas si c'était un graffiti ou une œuvre d'art abstrait suprématiste russe qui a changé votre destin.
Je pense que ça serait un petit millefeuille d'impressions d'œuvres qui ont un peu changé le cours de mon destin, mais spécifiquement des graphes aussi. Clairement des graphes quand j'étais adolescent en fait. En étant né rue Lourcq, on n'était pas loin du terrain vague de la chapelle, le fameux. Et ce qui fait que du coup, dans le périmètre, j'ai pu voir des graphes et des tags, parce que aussi des tags qui ont clairement influencé aussi mon parcours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était aussi cette liberté et cette nécessité d'apposer sa marque sur la ville pour exister finalement.
Et aujourd'hui, là, ce qu'on a sous les yeux à l'instant, c'est une fresque de qui ?
Alors, on est devant deux fresques. Il y a une fresque, une façade, c'est la façade de Jace. Et à côté, on a la cheminée qu'a réalisé le module 2IA.
On dirait un Dubuffet, cette cheminée.
Il y a quelque chose, effectivement, d'assez graphique qui pourrait faire penser aux formes de un peu d'art brut.
Dacruz, nous sommes descendus à quai et nous approchons de la rotonde de Stalingrad. Et tout autour de cette rotonde, il y a vos totems. Quel sens vous donnez à ces œuvres qui sont au pied d'un espace gentrifié avec un restaurant, avec un bar, une terrasse, et puis qui la nuit se transforme volontiers en épicentre du trafic de crack parisien? C'est un peu Crackopolis aussi la nuit.
Non, c'est pas là, tu t'es un peu enflammé, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que là, c'est pas ici que ça se passe, la vente ou les choses comme ça. Anciennement, oui, clairement. C'est justement, en fait, ce qui se passait ici, c'était clairement Crackoland. Maintenant, justement, avec l'implantation des cinémas MK2, la réouverture de la rotonde, des choses comme ça, ils ont essayé justement de redensifier au niveau commercial, etc., cet endroit pour essayer justement de faire un effet boule de neige et de repousser un petit peu plus loin les problèmes de trafic, etc.
Mais alors vos totems, c'est garder un peu de sauvagerie, de jungle, de wildlife sur cet espace ?
En fait, ce qui est drôle, c'est qu'ici, donc, j'ai voulu faire des totems parce que c'était un petit peu l'idée de faire quelque chose qui soit en fait en rapport avec ce bâtiment qui date de 1787. Donc c'est Ledoux qui l'a construit. Donc c'est quelque chose d'assez monumental. Donc pour pouvoir s'implanter dans cet espace, il fallait quand même trouver quelque chose qui soit en rapport. Donc j'ai essayé de trouver en fait une idée, c'était celle de faire des sortes de tours de Babel, justement. Parce que justement, par rapport à ce que vous évoquiez, son passé, son futur, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même un espace. Donc j'ai passé un certain temps, tout a été construit sur place, j'ai tout construit avec l'aide de quelques camarades. Mais en fait, tout ce qui est là a dû être construit planche par planche, assemblé avec des tourets, etc. Donc le truc, je voulais y mettre une autre symbolique. En y passant un certain temps, j'ai pu voir aussi les différentes classes sociales qui peuvent se fréquenter, se croiser ou s'ignorer aussi. J'ai pu aussi voir ce genre de choses-là. Mais on est clairement sur un endroit qui fait un peu paratonnerre, je dirais. C'est pour ça que d'où la notion de totem et la notion un petit peu comme ça d'éléments qui s'élèvent. C'est que du coup, ça concentre un paquet d'énergie en temps réel assez incroyable. On est tout près de la route, donc on est à côté de Stalingrad, on a le métro aérien, on a ici sur la place, donc face à la rotonde, la place de la bataille de Stalingrad, qui fait face au canal de l'Ourcq, donc d'où l'on vient de réaliser notre petite balade. Donc c'est quand même un espace qui est, et puis historiquement, ça formulait les frontières de l'ancien Paris. Alors, historiquement, on était de ce côté où on est là, on était dans les faubourgs, en fait.
Et vos totems, vos tours de Babel, vos flèches paratonnerres, elles sont marquées par votre style propre de graffeur, que sont ces visages qui rappellent peut-être un peu des masques africains, et puis avec des yeux, des grands yeux, qui regardent tout ça.
Exactement, en fait. C'est un mélange d'art primitif à la sauce graffiti. Et ce qui m'intéressait ici, c'est effectivement, de toute façon, les yeux, c'est quand même une partie assez importante dans mon boulot. Mais là, en fait, sur l'idée de construire des totems qui sont en fait circulaires, c'était histoire que, justement, en fait, quand je me suis rendu compte qu'en bossant sur place, il y avait en permanence des dizaines de regards qui se croisaient sur ce que j'étais en train de faire. Et que tout au long de la journée, il y a des gens qui habitent cet espace, mais de manière totalement différente. Et donc, il y a toujours la notion de ça chouffe dans tous les coins, ça regarde dans tous les coins. Mais c'est incroyable, toutes les diagonales qui se passent ici pendant la journée. Les gens qui déambulent, mais en même temps ceux qui restent statiques pour X raisons. Les petits vieux qui viennent se mettre à l'ombre. Les petits jeunes qui passent pour rejoindre différents espaces. Parce qu'ici, il y a vraiment la notion de sorte de frontière, quoi.
Le métro crisse sur ses rails suspendus au-dessus de la rotonde de Stalingrad. Une petite musique familière pour certains, certaines d'entre vous. Une petite musique qui nous rappelle que voici l'heure de la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Sophie Morin, pianiste qui cite volontiers Debussy, Satie et chante en duo avec Jamie Cullum et qui interprète à présent le titre Nénuphar, une référence directe à L'écume des jours de Boris Vian.
Voilà, je suis tombée des nues, tombée depuis longtemps sans être revenue. Jamais de mon étang, cela étant. Tu vois, j'aime les pays chauds, tout comme le mauvais temps, quelque part il fait beau. Et là-bas, je m'étends, cela étant. Même si ces feuilles sont sans fanfare, le bonheur, il faut me voir flotter sur les profondeurs. Mais c'est ça d'avoir un nénuphar dans le cœur, les coups de cafard, on les dit avec des fleurs. On les dit avec des fleurs. Voilà, J'aime danser dans l'air, tourner avec le vent sur les eaux calmes et claires, valser tout comme avant, cela étant, tu vois tout ici bas m'étonne, le monde est si brillant, même l'été monotone, l'écume des jours fuyants, c'est déjà temps, même si c'est feuillé sans fanfare, le bonheur, il faut me voir flotter sur les profondeurs. Mais c'est ça d'avoir un nénuphar dans le cœur, les coups de cafard, on les dit avec des fleurs. On les dit avec des fleurs.
C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Sophie Morin qui sera en concert le 13 août au festival Découvrir à Concèze en Corrèze et dont le disque sobrement intitulé Sophie Morin est édité par Joe & Co et Universal.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kénéen.
À présent, ouvrons la deuxième partie de la grande table d'été, comme on déploie les panneaux majestueux d'un diptyque, parce qu'il est désormais question de peinture, parce que mes invités sont deux et parce qu'ils ne dédaignent pas les grands formats. À l'heure où l'art contemporain enfièvre les collectionneurs, comme encore mi-juillet chez Christie's, la grande table d'été reçoit donc deux artistes jeunes et courtisés et qui témoignent d'une certaine idée de la peinture française et qui sait du pays tout entier. Tous deux ont en effet fait le choix de la peinture figurative et leurs personnages, qu'ils se battent dans des parkings souterrains où nous percent le cœur de leur regard noir. Ils nous percent le regard également, on en parlera avec son auteur dans un instant. Ces artistes et leurs œuvres reflètent les angoisses et les séductions du bel aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Tabouret, bonjour.
Bonjour.
Et puis en duplex de Toulouse, grâce à la complicité des équipes de France Bleu Toulouse, une cité où vous travaillez en ce moment, Guillaume Bresson, bonjour.
Bonjour.
Alors, afin de donner à voir votre œuvre à tous deux, autant que le permet la radio, Claire Tabouret, est-ce que vous pourriez décrire peut-être votre tableau qui est exposé en ce moment à Venise, au Palazzo Grassi ?
Oui, alors c'est une toile que j'ai peinte exprès pour cette exposition, qui est une exposition sur la lumière. Et donc du coup, j'ai voulu faire un grand tableau qui mesure à peu près 3 mètres par 4 mètres et qui figure une trentaine d'enfants échelle 1 qui nous font face, qui sont les pieds bien plantés dans le sol, droit debout et qui nous toisent. Et en fait, chaque enfant est armé d'un bâton lumineux qui pourrait évoquer des néons parce qu'ils sont peints dans une lumière quasi phosphorescente. Et ce qui m'intéressait, c'était que les spectateurs qui allaient visiter cette exposition allaient traverser, avant d'arriver à ma salle, au Palazzo Grassi, notamment une salle de Dan Flavin avec les merveilleux néons de Dan Flavin. Et donc de faire un passage en fait, entre cette écriture de lumière et l'écriture de la peinture. Et par ailleurs, c'est vrai que la composition entière de la peinture ne peut pas ne pas faire penser à la grande bataille de Paolo Uccello, ce peintre italien de la Renaissance.
Et c'est... Cette toile s'inscrit également, parce que vous parlez de néon phosphorescent. On imagine que c'est peut-être l'occasion de cette exposition collective, donc organisée à partir de la collection de François Pinault, donc à Venise. Hein, c'est l'illusion de la lumière. Cette toile et notamment ces bâtons lumineux, on les trouve dans d'autres travaux antérieurs.
Alors en fait, ils font écho à une toile qui a ouvert tout cet ensemble sur la thématique de l'enfance. C'est une toile que j'ai appelée Les Insoumis et que j'ai peinte il y a 2 ans environ. Et c'était la première fois que la figure de l'enfance apparaissait et prenait cette place dans mon travail. Et donc cette toile Les Insoumis, c'était à nouveau un groupe d'enfants dans un très grand format. C'était des enfants qui surgissaient, pour moi c'est comme s'ils surgissaient en haut d'une montagne. Tels des revenants, c'est vrai qu'ils sont baignés dans une lumière verte, peut-être le reflet de la lune, ou alors pire, le reflet de la mort sur la peau. Il y a quelque chose, en tout cas, de très irréel dans la lumière. Tous ces enfants sont déguisés. Certains ont déjà des bâtons blancs, pas tous. Et donc, ils sont déguisés en lapins, en fées clochettes, en panthères, en tout ce qu'on veut. Et ce qui est assez particulier, qui donne une atmosphère... encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun sourire. C'est vraiment qu'on est face à 40 regards extrêmement déterminés, graves et sérieux, et qui sont pour moi une manière de parler de révolte, en tout cas d'insoumission. C'est-à-dire que ces enfants-là, pour moi, c'était une manière de parler de la résistance, finalement, et de se poser aussi en contre-pied par rapport à peut-être une manière plus traditionnelle de figurer l'enfance, qui serait une enfance douce, sucrée, voire naïve. Alors que pour moi, c'est un condensé de force. C'est un moment extrêmement déterminant dans la vie, qui est fait de chocs, notamment de chocs esthétiques, qui vont être déterminants pour la suite d'un chemin. Ça pose la question du destin. Et en tout cas, moi qui étais une enfant peintre, qui avait eu cette vocation très jeune, je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir été une enfant douce et naïve, mais bien au contraire, extrêmement déterminée. Donc je voulais que ces enfants parlent aussi de ça, et le titre vient de là, en faisant écho à une phrase de Pierre Guyotat qui dit « Les enfants qui rentrent en création tout petits sont des enfants qu'on ne pourra jamais soumettre, ce sont des insoumis ». Et donc à partir de là, il y a eu tout un ensemble de tableaux, dont la toile de Venise est une des plus récentes.
Alors Guillaume Bresson, vous aussi êtes un insoumis déjà à l'époque de vos études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Faisons connaissance avec vous et les auditeurs avec vous. Actuellement, vous exposez notamment alors à Dinard dans le cadre du Festin de l'art, mais aussi à Mémac au Centre d'art contemporain. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'un de vos tableaux, peut-être celui de Mémac? Vos tableaux sont toujours sans titre.
Oui, voilà. Alors, celui de Mémac, donc, c'est issu d'une série, en fait, qui a un peu inauguré un travail que j'ai présenté à mon diplôme, en fait, en 2007, et qui était une série de tableaux sur la violence, plus ou moins, quoi, la violence urbaine, et qui représentait des scènes de bagarres ou d'émeutes, de révoltes. Et donc, celle de l'abbaye Saint-André de Mémac, donc, qui est exposée cet été, c'est une scène dans un parking souterrain. Et donc, on voit un personnage enlever une femme dans un parking souterrain, dans une lumière très sombre. Donc, un sujet très, très violent et très, très cru, quoi. Mais traité de façon très, très léchée. Un peu à la façon de peintres classiques de la Renaissance, ou baroque plutôt. Et sur un très petit format aussi, donc 20 sur 30 cm. Donc voilà, il y avait ce rapport entre une violence dans le sujet, mais une façon de le traiter très, très léchée et assez douce finalement, qui pour moi, apporte une tension, quoi. C'est ce contraste en fait qui crée un malaise et une tension.
Mais alors précisément, Guillaume Bresson, ces images contrastées, ces images à la fois léchées et de scènes violentes, de violences urbaines, aime-t-on à penser, il semble que ces images-là, mentales, en tout cas, ne viennent pas de votre adolescence toulousaine, dans le quartier de Rangueil, un quartier certes complanté de pavillons et de cités, mais où vous dites que vous avez une adolescence tranquille. D'où cela vous vient-il?
Tranquille, plus ou moins tranquille, quoi, disons.
Vous avez enlevé des femmes dans les parkings des centres commerciaux?
Non, je ne suis pas allé jusque-là. Mais c'était une adolescence quand même relativement tranquille. Mais j'étais dans ce milieu aussi des graffitis, du hip-hop, de la danse, qui est quand même une culture qui est basée sur le face-à-face, je dirais pas la violence, mais quand même une certaine agressivité dans le fait de faire de sortir, faire des graffitis sur les murs de la ville le soir, alors que c'est interdit. Il y avait toute cette puis c'est aussi dans le milieu des banlieues et donc il y a quand même une violence quoi qui est là. Donc cette violence là elle est naturellement venue plus tard dans mes tableaux.
Et elle s'est ajoutée, elle a été renforcée, peut-être enflammée, embrasée par la violence qu'il y a aussi dans la peinture classique, dans la peinture de la Renaissance ?
Non, je pense pas avoir voulu intentionnellement représenter de la violence. C'est plutôt quelque chose, des éléments que j'ai piochés dans le réel, quoi, qui m'entourent, qui m'entouraient, des personnages, des scènes, voilà. Que j'ai ensuite recomposé, que j'ai agencé sur des tableaux sans me dire je vais faire un discours sur la violence, je vais parler de la violence. C'était pas, je m'intéressais pas, disons, forcément spécialement aux tableaux violents classiques. Dans la peinture classique, j'ai été assez naturellement attiré par cette peinture-là. Je me suis senti contemporain en fait de autant de peintres anciens que de peintres d'aujourd'hui, quoi. Parce que je suis arrivé en fait à l'école des Beaux-Arts sans vraiment avoir fait de prépa ou avoir de connaissances dans l'art ou quoi que ce soit. Donc je suis arrivé avec un regard un peu neutre et j'ai mis tout au même niveau. Donc voilà, je me suis autant intéressé à des scènes de bataille qu'à des scènes très qui pouvaient même des natures mortes ou des scènes de genre.
Claire Tabouret, vous nous parliez de scènes de bataille aussi dans votre inspiration avec Uccello. Il y a aussi de la violence, du face-à-face dans votre travail que vous décrivez volontiers quand vous êtes face à la toile comme une sorte de shadowboxing.
Alors, ouais, c'est
les boxeurs qui parlent comme ça quand ils s'entraînent face au miroir. Vous vous battez contre des ombres?
C'est aussi l'idée qui m'intéresse, qui serait de comparer l'espace de la toile, qui est vraiment un espace délimité, fait de contraintes, tout comme la boxe. Et donc, la toile deviendrait un ring. Et donc, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une délimitation que la liberté est possible à l'intérieur de cet espace-là.
Guillaume Bresson avait un passé, peut-être dans les territoires souterrains, les parkings, vous avez un passé de boxe?
J'ai eu fait de la boxe, mais c'est une anecdote comme ça. Je ne sais pas, je crois que c'est vrai que j'ai plus souvent comparé le peintre à un combattant et à un boxeur, à une sorte de... Effectivement, il y a un face-à-face avec soi-même, en tout cas. C'est aussi quelque chose que j'ai mis en jeu dans une série d'autoportraits que j'ai commencé pendant un voyage en Chine, où je suis allée pendant 3 mois à Pékin pour préparer une exposition. Et à ce moment-là, c'était parti d'une idée assez simple, une sorte de prétexte qui était de vouloir documenter chaque journée passée dans ce pays. Et comme j'ai toujours pas un rapport à l'écriture très évident, j'ai beaucoup plus un rapport au dessin, je m'étais dit que la meilleure manière pour moi de garder une trace de chaque journée était de dessiner chaque matin un autoportrait en m'asseyant face à moi-même dans le miroir. Et voilà, de voir ce qui allait advenir de ça. Et donc, c'est quelque chose qui est tellement devenu une sorte de rituel d'atelier que je l'ai conservé pendant à peu près 2 ans, même à mon retour en France. En ce moment, j'en fais plus, mais ça pourrait revenir à d'autres. C'est une question de nécessité. C'est peut-être des moments où on a besoin plus qu'à d'autres moments de se concentrer, de se recentrer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui ressort de ce face-à-face? C'est vraiment la question du regard. Et qui est central pour un peintre, bien entendu. Et donc, un peintre qui se regarde, c'est un regard qui se regarde, regarder, etc. Enfin, c'est un puits sans fond. J'ai l'impression que c'est presque le noyau d'une pratique.
Mais il y a une pratique qui est empreinte d'une certaine violence, d'une certaine fureur, puisque vous évoquez aussi parfois votre art, et en particulier vos gestes, comme des gestes d'escrimeur.
Disons que
vous
comme
j'aime
beaucoup les grands formats, c'est vrai que je travaille beaucoup des toiles qui peuvent faire 3 mètres sur 4 mètres, voire plus. Ça implique un rapport physique, en fait, et c'est du mouvement dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a presque une chorégraphie d'atelier. J'aime bien parce que, comme je peins assez salement, je fais des traces au sol. Et donc, au bout d'un moment, dans l'atelier, se dessinent des chemins qui sont les chemins que j'utilise plus que d'autres. Et donc, tous ces chemins parlent aussi de ces va-et-vient. En fait, faire une grande peinture, il y a beaucoup de moments d'attente. Alors, en ça, c'est peut-être plus l'escrime que la boxe. Et puis, d'un coup, paf, paf, on voit quelque chose et on agit avec une sorte de rapidité. Donc, c'est une pratique où on est extrêmement concentré. Il y a peut-être moins de lâcher prise que dans d'autres activités que j'ai pu avoir à une époque où j'ai fait des dessins au feutre avec des gestes beaucoup plus programmés, alors que voilà.
Guillaume Bresson, vous faites à la fois des petits formats mais aussi des grands formats. Vous avez le souvenir certainement dans votre corps du geste ample du graffeur quand il a une bombe à la main. Vous peignez aujourd'hui à l'huile, vous avez aussi le geste de l'escrime.
Moi c'est un peu comme Claire, je vois un peu la toile comme une contrainte spatiale qui permet en fait de la liberté. Je la vois plus comme une scène que comme un ring. J'ai le rapport un peu opposé au geste finalement, peut-être, où moi j'ai tendance à effacer mon geste et à travailler très très lentement, c'est-à-dire pas forcément dans la rapidité du geste, quoi. Voilà, tous les gestes de pinceau, de peinture sont finalement effacés au profit des gestes des personnages qui sont sur le tableau, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est plus ça, de faire une chorégraphie aussi, mais des personnages, quoi. Créer des personnages et les faire, les mettre en rapport dans un espace. Dans l'espace du tableau, qui chez moi est en perspective. Donc il y a une scène à nouveau creusée dans le tableau en perspective dans laquelle je dispose des choses au fur et à mesure de la construction du tableau. Et sinon, pour les formats, oui, j'ai plutôt tendance à faire des grands formats aussi, parce que c'est vrai que oui, il y a ce rapport au corps, il y a une implication du corps qui est importante, quoi, et qui même, je pense, chez le spectateur, le met face à quelque chose où il peut se projeter peut-être plus facilement que dans un petit format, je sais pas.
No tengo lugar y no tengo pesar. Yo menos tengo patria. Con mi dedo algo fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón te llora.
Anouk Aïta sur France Culture dans la Grande Table. Le morceau s'intitule Nasi en Alamo. C'est une sorte d'hymne des gitans, un peuple pour qui la route est toujours ouverte. Elle n'est jamais terminée, jamais achevée. Un petit peu comme vos travaux respectifs, vos peintures, Claire Tabouret et Guillaume Bresson. Guillaume Bresson, je lisais récemment un article qui vous décrivait lors d'une exposition, ou du moins à la veille d'une exposition, en train encore de retoucher une toile. J'ai pensé à une anecdote qui, je crois, est apocryphe concernant Oskar Kokoschka, grand peintre expressionniste viennois, un vieil homme de 80 ans qu'on arrête dans un musée de Vienne en train de retoucher une toile, et on se rend compte qu'en effet, c'est Kokoschka qui n'est toujours pas content de son tableau, qui est pourtant exposé dans un grand musée et qui voudrait la retravailler. Qu'avez-vous, quel est votre rapport à l'achèvement, à l'inachèvement d'un tableau?
Moi, je pense, enfin, pour mon travail, il n'y a pas de, c'est jamais fini. C'est-à-dire que c'est une construction, le tableau, qui au départ part de rien. Et j'ai pas de sujet a priori, en fait.
C'est-à-dire qu'on peut vous voir là, on peut imaginer vous voir à Dinard, pardon, ou à Meymac, les expositions qui vous sont consacrées en ce moment, ou auxquelles vous participez, vous allez venir et puis sortir les pinceaux pour retoucher les toiles accrochées.
Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Moi, je peux interrompre le tableau à la limite, dans l'idéal, à n'importe quel moment. Il faut qu'il tienne, quoi. Après, une fois que il est exposé, je passe à autre chose. Je suis pas en train d'essayer de le perfectionner, en fait. C'est plutôt une construction qui se fait, qui peut toujours être modifiée, quoi. C'est pas du perfectionnisme. C'est pas parce que je pense que le tableau n'est pas fini, c'est que je peux toujours moduler, rajouter, enlever. Voilà, donc souvent, c'est vrai que je travaille jusqu'au dernier jour.
Et vous, Claire Tabouret, il faut que ce soit un collectionneur comme François Pinault qui vous arrache le tableau des mains, qui le sorte de votre atelier pour que vous considériez que l'œuvre est achevée ?
Je pense que heureusement qu'ils sont là, c'est vrai, pour sortir de temps en temps les œuvres de l'atelier. Heureusement qu'il y a des expositions, parce que sinon, ça serait très difficile effectivement de s'arrêter. Je crois que je comprends ce que veut dire Guillaume, c'est qu'un tableau, on ne peut pas l'isoler de celui qu'il y avait avant, de celui qu'il y avait après. C'est vraiment le chemin qui compte, et donc ce chemin n'est jamais, jamais achevé. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la présence, de trouver la juste présence d'un tableau. Et ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux et qui demande une sorte d'écoute de sa peinture pour ne pas rater ce moment-là. Et donc, ça a beaucoup à voir avec la couleur aussi, le fait que je commence par peindre avec des couches de couleurs extrêmement vives, voire fluorescentes.
Ce vert fluorescent qui est, selon vous, à l'origine de la couleur de la carnation, de la peau humaine, qui est à l'intérieur des corps.
Ce qui m'intéresse, c'est cette idée qu'il y a une lumière interne, que le tableau porte une lumière interne, que sous toutes ces couches de peinture, il y a ce vert qui irradie tout et qui baigne la peinture dans une lumière mentale. Et donc ensuite, j'ai pas envie que cette couleur crie, j'ai envie qu'on soit obligé de ralentir pour pouvoir la voir, pour pouvoir l'écouter. Je suis à la limite entre présence et absence. En tout cas, c'est ça que je cherche à trouver. Et en fait, ces personnages, du coup, qui brillent comme des lucioles, sont en train de résister à l'oubli, faiblement, mais de manière forte en même temps.
Et alors, si vous avez accepté de vous séparer de certaines œuvres qui étaient jusqu'ici dans votre atelier, pouvez-vous nous dire un mot des œuvres qui sont aujourd'hui sur vos chevalets ?
Alors, sur quoi travaillez-vous ? Je travaille sur le mur. En fait, j'accroche les tableaux sur le mur, vu qu'ils sont tellement grands. Le chevalet, on ne le verrait même plus derrière tout ça. Et du coup, là, je travaille sur une toile qui représente une quarantaine de jeunes filles en fleurs, qui sont dans des robes à meringues, avec des diadèmes dans les cheveux. Donc, c'est très princesse, très, très sucré, justement. Mais en parallèle, en contradiction avec ce sujet-là, en fait, elles sont envahies par l'étoffe, quitte à suffoquer, à être étouffées.
Comme votre grande camisole ?
Voilà, c'est un peu l'idée d'une grande camisole qui recouvrerait tout ce groupe, donc avec en plus les caractérisations d'une sorte de féminité exacerbée, dévorante et terrifiante. Et en même temps, donc, cette étoffe est représentée comme si c'était quasiment de la glace. Et par ailleurs, elles ont les yeux de braise, donc il y a un peu d'espoir dans ce tableau. On se dit qu'elles pourront faire fondre la glace.
D'un mot, Guillaume Bresson, est-ce que vous nous diriez aussi quelque chose de ce à quoi vous travaillez précisément à Toulouse, puisque vous êtes en duplex, vous êtes dans votre atelier et que vous préparez une exposition pour le mois de novembre, voilà, à Paris ?
Ouais. Donc moi j'ai une dizaine de tableaux en préparation qui sont pas très avancés. Donc comme je disais, j'ai pas de sujet a priori, donc je peux pas trop dire comment ça va terminer. Mais bon, il y a beaucoup de c'est des scènes avec des personnages, dont une notamment assez grosse qui va se passer dans un McDo et donc assez mouvementée, un peu absurde. Voilà, je peux pas trop préciser, c'est pas encore fini.
Mais c'est déjà très alléchant. Merci voilà. Beaucoup Guillaume Bresson, ouais. Merci Claire Tabouret. Je rappelle à nos auditrices, nos auditeurs, Claire Tabouret, que vous exposez au Palazzo Grassi à Venise dans le cadre de l'exposition collective L'illusion de la lumière, c'est jusqu'au 31 décembre, et puis on peut trouver certaines de vos œuvres également à la Saline Royale, au Centre d'art contemporain de Meymac, où expose également Guillaume Bresson, et puis au château de Memelmont en Belgique, et toujours à la galerie Isabelle Gounod. Quant à vous, Guillaume Bresson, vous exposez donc, je le disais, au Festin de l'art à Dinard, au Palais des Arts et du Festival de la Ville de Dinard jusqu'au 7 septembre. Et puis dans le cadre de Esthétique d'un monde désenchanté à l'abbaye Saint-André, centre d'art contemporain de Meymac jusqu'au 2 novembre. Et également à la galerie Nathalie Obadia. Mais à présent, autour de la grande table d'été, sur cette nappe colorée aux couleurs phosphorescentes, eh bien c'est l'heure de la chronique de Marine Loyen. Bonjour Marine.
Bonjour Martin. La grande table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Je parlais de gitans tout à l'heure. Vous êtes parti en pèlerinage, mais avec des bikers, Marine.
Oui, aujourd'hui, nous partons mordre le bitume avec ces hommes et ces femmes qui ne font plus qu'un avec leur terrible machine. Amoureux de la route, de la vitesse et de la liberté, du voyage plutôt que de la destination. Biker, c'est une attitude, presque une religion, celle de la mécanique toute puissante. C'est une communauté aussi avec ses signes de reconnaissance et son goût du risque partagé. L'humilité qui vient de leur vulnérabilité. Cavalier des temps modernes se déplaçant en meute. Biker, c'est aussi une esthétique diffusée par des road movies comme Easy Rider de Dennis Hopper ou plus récemment dans la série Sons of Anarchy, des films qui popularisent l'image des riders hors la loi à la manière des Hells Angels. Mais ce ne sont pas les anges de l'enfer que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont plutôt les bikers du Seigneur. Tous les ans, à Port-Carreau, en Bretagne, des milliers de motards convergent de la France entière pour un grand pardon sur le modèle des grands pardons bretons. Diane de Beaugrenier est motarde et grande habituée du pèlerinage.
Donc Port-Carreau, c'est un petit village au centre de la Bretagne, une petite commune du Morbihan, qui chaque année accueille 20 000 motards à l'occasion donc du pardon de la Madone. Donc pour ces jours-là, c'est une véritable capitale de la moto. 20 000 motos, c'est énorme. Dans ce petit village, c'est surréaliste. Des motards qui viennent de toute la France, même de l'Europe.
Donc, et comment la première fois, par exemple, que vous êtes arrivé, que vous avez vu ces 20 000 motos, qu'est-ce que vous avez ressenti? Expliquez-moi ce que vous avez vu et quelle émotion vous avez ressenti en voyant ça.
C'est les 20 000 motos, c'est 20 000 motos différentes où... on a tous la même passion, on peut tous se parler, même si socialement on n'est pas du même milieu, si géographiquement on n'est pas du même endroit, si on peut, on se parle. Qu'est-ce qui se passe en voyant ces 20 000 motos? C'est du bruit. C'est des moteurs, il y en a qui font des ruptures, gémir leur moto à fond. C'est pas mon cas, hein. Mais c'est beaucoup de bruit, c'est une ambiance surréaliste. On les croise près de l'oratoire de la Madone. L'oratoire, c'est un lieu qui a été construit. C'est une petite, une petite chapelle, un petit endroit où chaque motard peut venir déposer une plaque d'un ami ou d'un parent qui s'est tué sur la route. Donc c'est vrai que c'était un endroit très fort où des motards qui, qui semblent être loin de l'église. Et ils sont là, ils sont recueillis, ils sont en cuir, ils sont tatoués, toutes sortes de motards viennent casque à la main se recueillir dans cet endroit. Parce que qui n'a pas perdu un ami en moto quand on est motard? Tout le monde. Je crois que quand on a quelques années de moto derrière soi, on a tous perdu un ami sur la route. Donc voilà, c'est vrai que cet endroit est très émouvant. Il faut savoir aussi que le prêtre responsable de ce grand rassemblement, c'est le père Jean-François Audrin, qui est lui-même motard, un motard passionné, puisqu'il fait de la compétition, il fait du circuit, donc c'est un vrai motard.
Mais la religion là-bas, c'est la moto?
Non, alors la moto, mais la religion, c'est aussi bon. Alors le 15 août, pourquoi le 15 août? Parce que le 15 août, c'est l'Assomption. Ce jour-là, le 15 août, il y a la messe célébrée. Suite à cette messe, il y a la bénédiction des motards. Et ça, c'est un moment que les motards attendent. Donc 20 000 motos à bénir individuellement. Il y a 5-6 prêtres qui arrivent à se dégager pour ces deux jours. Ils bénissent donc pendant des heures. 20 000 motos, avec souvent un petit mot aussi personnel, rapide, mais personnel à chacun. Donc voilà, je ne sais pas moi, ces motards, la veille peut-être, oui, effectivement, il y a eu de la bière sur le camp, il y a eu la fête, il y a eu des concerts, mais ils sont là. Et ils reviennent chaque année, puisque en 1979, il y en avait 35 motards, l'année dernière, 2013, Il y en avait 20 000. Donc ils sont là quand même pour se faire bénir par un prêtre.
Voilà, le grand pardon des motards de Porcarreau, ça ouvre jeudi 14 août, c'est dans le Morbihan.
Merci beaucoup Marine, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique sacrée, chevaleresque et mordante et pour une nouvelle grande table d'été. Petit erratum à l'attention de nos auditrices, nos auditeurs qui rêvent de mettre la main et les yeux sur les toiles de notre invitée Claire Tabouret. Elle est bien exposée à la galerie Bugada et Carniel, sa nouvelle galerie, son nouveau dealer exclusif d'enfants, d'enfants insoumis comme elle l'est elle-même, même si elle est devenue peintre adulte. Et une expo est organisée par Bugada et Carniel, une expo notamment des œuvres de Claire Tabouret qui sera visible à la FIAC en octobre. L'émission d'aujourd'hui était quant à elle mise en couleur et en mouvement par le petit atelier collectif de la grande table d'été qui réunit Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen, avec à la réalisation le maestro Michel-Ange Vinti et à la prise de son Théo Gomard, et puis bien sûr avec la complicité des équipes de France Bleu Toulouse que nous remercions chaleureusement.